Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Thomas Rozek. S'il y a bien un truc dont je suis totalement incapable a priori, c'est de danser, en public, j'entends. C'est d'une affligeante banalité chez bien des mecs, mais je suis tellement corseté par une gêne vis-à-vis de mon corps issu de je ne sais quel tréfonds archaïque de masculinité stéréotypée que je suis à peine capable de hocher vaguement la tête et de taper du pied au rythme de la musique, lorsqu'elle me plaît, pour peu qu'il y ait du monde autour de moi, et que je sois sobre aussi, mais ça c'est un autre problème. Bref, au-delà de mon petit exemple personnel, le rapport des garçons à la danse, il n'est pas des plus simples, encore moins lorsqu'ils aiment ça, qu'ils veulent y consacrer du temps et qu'ils se rendent vite compte que ça n'est toujours pas perçu avec bienveillance. Pour comprendre un peu mieux ce qui se joue derrière ces blocages, Bastien Munch, lui-même danseur, est allé enquêter et c'est son reportage réalisé par Solène Moulin qui forme notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
Tu seras danseur, mon fils. J'ai commencé la danse africaine à l'âge de 15 ans. Je venais d'entrer en seconde au lycée. Je me suis dit, j'ai envie de danser. J'ai envie de danser sur une scène, j'ai envie de bouger. Et puis je me suis mis à prendre des cours. Ça me plaisait beaucoup. Tous les samedis matins, je faisais ma choré, je rentrais essoufflé. J'étais heureux. Après, j'en parlais pas beaucoup. Ma famille, ça allait, elle était très ouverte là-dessus. Ma mère danse beaucoup, ça a été très bien accepté. En fait, c'est presque eux qui m'ont poussé vers la danse. Mais j'en ai pas beaucoup parlé au lycée. Mes potes, par exemple, je leur ai pas dit tout de suite. J'ai attendu un peu, quelques mois, j'y ai réfléchi. Ouais, j'avais un peu peur de leur réaction. Peur qu'ils le disent à toute la classe. Peur qu'on se moque de moi, qu'on me traite de tapette. Des conneries de lycéens, quoi. Aujourd'hui, je trouve ça dommage de l'avoir caché, de l'enfouir en soi et de pas clairement s'afficher en tant que danseur. Parce que je ne suis pas le seul à avoir vécu cette situation. Il y a plein d'hommes, de jeunes garçons aussi, qui dansent mais qui n'arrivent pas à le dire à cause du regard des autres. Des Billy Elliot des temps modernes, en quelque sorte. Et d'ailleurs, pourquoi, encore aujourd'hui, 19 ans après ce film culte, des jeunes garçons ne peuvent même pas dire à leur famille qu'ils dansent?
Et un, deux, trois, pas de bourré, deux...
Alors tu veux faire danseur?
Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça?
Qu'est-ce qu'il y a de mal à être danseur?
C'est parfaitement normal.
Parfaitement normal.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Tu vois?
C'est normal pour ta grand-mère, pour les filles, mais pas pour les garçons, Billy.
Et donc j'ai décidé de m'intéresser à cette pression sociale. Cette pression qui détourne les hommes de la danse dans une société qui, malgré tout ce qu'on dit, prône toujours une virilité à outrance. Alors je suis retourné chez mon prof de danse africaine que j'avais au lycée, Frédéric Cano, qui donne des cours en Alsace. Et avec lui, j'ai déjà essayé de savoir comment ça se passe. Quand on est un homme et que par la société, du coup, on n'est pas prédestiné à danser, comment ça se passe, ce premier contact avec la danse ?
Lorsque je reçois des enfants qui viennent dans les premiers moments des cours, donc dans les cours d'initiation et d'enfants, on a la chance d'avoir quelque chose qui est désinhibé. Ils préfèrent quand même quand il y a un prof qui est un garçon, ils ont pas l'impression d'être tout seuls. Ils aiment bien aussi toujours poser la question avant de commencer, de savoir s'il y a d'autres garçons dans le cours. Mais bon, ils ont pas trop de problèmes avec ça, ils arrivent à s'adapter. Alors que au niveau des adolescents, là, c'est déjà plus problématique. Soit on les perd alors qu'ils étaient enfants avec nous et ils assument plus trop de venir faire de la danse, soit c'est difficile effectivement de venir démarrer quand on est adolescent. Le regard de l'autre est compliqué à cet âge-là. L'adolescence, c'est une période de changement, de chamboulement même hormonal. On se retrouve souvent avec des adultes ou des jeunes adultes entre 20 et 25 ans qui démarrent la danse à ce moment-là, parce que peut-être ils assument à ce moment-là plus le fait de faire de la danse. On peut être sûr que quand un garçon arrive pour faire de la danse, il est mobilisé et motivé pour les 5-6 années à venir, parce que la démarche est tellement compliquée et la réflexion est tellement profonde que quand il franchit le seuil de l'école de danse, c'est pas pour rigoler, quoi.
C'est vrai que c'était un peu mon cas. Quand on est un mec en pleine puberté, on réfléchit à deux fois avant de s'inscrire dans un cours de danse. Mais quand l'envie devient plus forte que les appréhensions, on se lance. Après, encore faut-il savoir dans quelle danse, parce que ça n'a pas le même impact sur le regard des autres.
Pour ma part, comme je suis prof de danse africaine et de danse jazz, ils vont venir plus facilement vers la danse africaine. Peut-être rapport au fait que ça leur donne une stabilité plutôt plus virile, plus masculine, voilà, par rapport à la danse jazz. Après, c'est vrai que habituellement les garçons vont plutôt vers la danse hip-hop. Parce que justement il y a ce côté où on peut dire je fais pas de la danse quoi, je fais du hip-hop. En jazz on a un peu plus de problématiques où on n'a pas une danse qui se différencie entre les filles et les garçons. On a la même structure danse, après c'est le corps, la façon d'interpréter les mouvements qui est différente, mais le mouvement lui-même reste le même, donc c'est un peu plus complexe pour les garçons d'y venir s'ils sont pas complètement à l'aise avec le regard des autres.
Et tu me disais même un truc assez étonnant, c'est que il y a même plus de garçons qui vont des fois vers la danse classique plutôt que vers la danse jazz.
Effectivement, parce que le rôle du danseur classique, en tant que tel, il est là pour faire les portées, pour faire les grandes figures, pour faire les duos. Donc il est très très mis en avant. Et c'est surtout sa masculinité qui est mise en avant, je veux dire. Ne serait-ce que parce qu'il nous fait sourire en disant on va pas porter un collant, mais le collant... À la base, je veux dire, il est là pour galber les muscles, pour montrer vraiment la virilité du garçon qui danse. Donc, il y a un côté très machiste, en fait, dans la danse classique. Il y a vraiment des pas qui sont faits pour les filles et pour les garçons. Les garçons ne porteront jamais de pointe, ne porteront jamais de tutu, voilà. Et parce que on doit garder ce côté très masculin.
Des fois, encore aujourd'hui, je me pose la question. Est-ce que j'ai pas choisi la danse africaine par facilité ? Peut-être même inconsciemment, mais pour me dire « Bon, je fais de la danse, mais ça va, ça reste correct. C'est pas que vu comme une danse de fille. » Eh bien franchement, je n'ai toujours pas de réponse à cette question. Et encore, moi j'ai commencé la danse à 15 ans, mais ils se sentent comment ceux qui font de la danse plus tôt, au collège ou même à l'école primaire ? Eh bien pour le savoir, je suis allé leur demander.
Je suis devant le département danse du Conservatoire National de Bordeaux, devant parce qu'on m'a un peu interdit l'accès à l'intérieur, et pour l'instant c'est plutôt des filles qui rentrent dans le département danse. Alors bonjour Arsène, donc toi tu fais de la danse depuis, t'as 10 ans, tu fais de la danse depuis 6 ans, donc depuis que t'as 4 ans. T'en parles facilement avec tes amis du fait que tu fais de la danse, t'arrives à leur dire facilement, ils réagissent bien ?
Oui, il y en a quelques-uns qui réagissent bien, enfin la plupart. Quelques-uns se font des doutes, du style, j'ai pas envie que mon ami ait une vie pourrie parce qu'il danse. J'ai jamais avoir une vie pourrie parce que c'est moi et c'est moi qui me gère. J'ai eu quelques amis qui me traitait de fille parce que je faisais de la danse, notamment un animateur. Je me disais, ils sont bêtes, quoi, c'est bête de dire ça. Donc je les écoutais pas. Moi, je restais concentrée sur ça, sur le fait que je veux danser et que je veux en faire mon métier. Voilà, c'est un grand rêve pour moi et je laisserai pas les autres m'en empêcher.
Tu veux en faire ton métier, c'est-à-dire ?
Ben, je vais en faire mon métier pour devenir danseur professionnel à l'Opéra de Paris et essayer d'être nommé danseur étoile.
Et alors vous, vous êtes la mamie ?
Oui.
Et alors vous, quand vous entendez des choses comme ça, est-ce que vous êtes fière de votre petit-fils ? Vous voulez le porter le plus loin possible ?
Ah ben oui, nous on est d'accord, la famille on est d'accord. C'est son rêve, il faut qu'il le fasse.
Et alors les gens qui disent des fois aux garçons, moi ça m'est aussi arrivé, la danse c'est pour les filles, qu'est-ce que tu as à la danse ? Pourquoi il y a encore des gens qui disent ça aujourd'hui en 2019 ?
Il y en a, ils regardent que le bout de leur nez, et ils regardent pas ce qui est bien. De toute façon, chacun est libre de faire ce qu'il veut, de ce qu'il aime. Il faut qu'il aille au bout de ce qu'il aime.
Et donc ça se trouve, dans 10 ans, vous irez le voir à l'Opéra de Paris faire un spectacle ?
Ah oui, faut l'espérer.
Bonjour Jules, donc t'as 11 ans, ça fait 8 ans que tu fais de la danse. Est-ce que tu le dis à tes amis du collège ou aux gens du collège que tu fais de la danse, ou des fois tu préfères pas le dire ?
Bah en fait oui, je leur dis, mais en primaire ça me blessait quand ils disaient n'importe quoi, mais maintenant je m'en fiche.
Ils disaient quoi en primaire ?
C'est pour les filles, c'est pour les tapettes, tu sais pas te défendre, des trucs comme ça.
Et quand ils disaient ça en primaire, comment toi tu réagissais après ?
Bah soit je me mettais en boule, soit je me froissais, soit je portais.
Et maintenant au collège, est-ce que t'entends encore des remarques, des gens qui te disent des choses ?
Ah oui, même plus qu'en primaire, mais ça me passe au-dessus, je m'en fiche.
T'as envie de leur répondre quoi à ces gens-là qui comprennent pas que la danse c'est aussi pour les garçons ?
Bah que eux, tout simplement, ils font rien de leur vie, ils ont rien et voilà. Toi, enfin, tu sais même pas ce que c'est, alors tais-toi, tu peux pas juger et voilà.
Mais tous ne sont pas aussi persévérants. Retour avec Fred, c'est comme ça que tout le monde l'appelle dans ses cours. Je lui ai demandé comment se manifeste cette charge sociale pour les hommes qui choisissent la danse, ce qui les pousse parfois à arrêter les cours.
Bah, la première chose que les gens vont vous dire, je fais de la danse, ils vont dire, bah, fais-moi le grand écart. Alors, quel rapport, je sais pas, c'est comme si je fais de la gym, vas-y, saute par-dessus une barre. Je sais pas, voilà. Quand on dit on fait de la danse, je sais pas, les gens ont quelque chose qui... Pas qui les gêne, mais qui est encore un petit peu tabou. C'est pas totalement assumé. Ah, tu fais de la danse, mais quelle sorte de danse? Donc, si on dit hip-hop, bah tu quoi? Ok, d'accord, mais danse jazz, mais alors c'est quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? T'es en tutu? Voilà, alors que la danse jazz, on n'est pas du tout là-dedans. Mais il y a encore des stéréotypes et un rapport assez ambigu entre un garçon qui fait de la danse et sa pratique et peut-être sa virilité, sa... Ça rassure les gens, par exemple, de dire « Oui, on fait de la danse, mais du coup, ben, vous inquiétez pas, je suis hétérosexuel. » Mais on s'en fout, je veux dire, on va pas demander à quelqu'un qui fait du lancer de javelot s'il est hétérosexuel ou s'il est homosexuel, on s'en fout. Dans la vie quotidienne, on va avoir un rapport peut-être au sport ce rapport au sport crée la masculinité. Je veux dire, si vous faites du basket, si vous faites du foot, voilà, il y a quelque chose qui est c'est bien mon fils, tu fais ci, tu fais ça. Et les filles, à contrario, elles, il faut qu'elles fassent de la danse, alors qu'il y a des filles qui n'ont absolument pas envie de faire de la danse. Donc, c'est réussir maintenant à redonner un peu la place à chacun et surtout l'envie de l'enfant. Qu'est-ce qu'il a envie de, vers quoi il veut tendre et qu'est-ce qui va l'habiter? C'est vrai qu'au sein même d'une famille, on est plus habitué à voir son père peut-être faire du tort à la maison pour pouvoir voir le match de foot plutôt que The Voice. Voilà, pardon, je sais pas. Et mais par contre, il va pas se battre pour regarder le patinage artistique sur France 3 le dimanche après-midi. Mais en même temps, c'est pas sciemment, c'est pas des choses qui sont conscientes. Je veux dire, les parents et les papas sont pas là pour exprès ne pas laisser libre cours au côté artistique de leurs enfants. C'est juste que culturellement, on est encore là-dedans, on n'a pas cette fibre-là.
Eh, mais là, il y a faute, mais attends!
Bon, sur ce point-là, j'ai eu pas mal de chance. Mon père a beau regarder le foot, il adorait venir me voir danser. Écoutez-le un peu.
J'appréciais tout au long de l'année, déjà, soit en alterné avec ta mère, j'appréciais beaucoup de t'emmener aux répétitions de danse. Puis ensuite, arrivait chaque année le spectacle, le gala de fin d'année. Et pour moi, c'était un moment formidable. De pouvoir te voir sur scène, te voir danser, de voir tout simplement te voir s'exprimer sur une passion. En fait, je sentais bien que tu étais dans l'authenticité. Ça faisait partie de toi, c'était ta passion. Et à partir de là, moi, je me posais pas la question, cliché ou pas cliché, est-ce que mon fils, qui est un garçon, peut faire de la danse ? Pour moi, c'était tout à fait naturel de te voir danser en voyant le plaisir que tu prenais.
Mais c'est pas vraiment naturel dans toutes les familles. Dans le podcast de Charlotte Bien-Aimée, un podcast à soi, un jeune garçon explique par exemple que quand son père l'emmène à la danse et qu'il est au téléphone pour le boulot, il raccroche toujours en disant qu'il doit emmener son fils au basket. Rien de grave en apparence. Mais pour Fred, c'est aussi ça qui contribue à cette persistance des stéréotypes de virilité.
On a quelque chose en danse qui s'appelle l'artistique comparé au sport, c'est qu'on doit laisser libre cours à nos émotions et à nos sensations. Et l'émotion, c'est quelque chose qui, dans l'intellectuel collectif, n'est pas envisageable avec la virilité. Comme si d'avoir des émotions ne pouvait que égratigner notre virilité. Donc effectivement, dans toutes les danses, on doit... avoir la performance physique, la performance sportive, mais en même temps, on doit se livrer un petit peu dans notre danse pour pouvoir justement donner des émotions aux gens qui viennent voir. C'est pas toujours simple encore, regardez encore, poser la question à tout un chacun, est-ce qu'un garçon ça pleure quoi ? Bah non, ça pleure pas un garçon, c'est dur, ce qui est complètement stupide, mais c'est encore ancré dans nos êtres, et on est dans cette dynamique où l'émotion ne peut pas aller avec la virilité.
Mais une fois qu'on brise cette barrière culturelle, qu'on se laisse porter dans la danse en tant qu'homme, on réussit à s'assumer entièrement.
de danse classique à Bordeaux, un cours de débutants, pour rencontrer Mathieu qui est le seul garçon de son groupe.
Alors bonjour Mathieu, donc tu fais de la danse depuis 3 ans, t'as 27 ans aujourd'hui. T'as déjà eu envie d'arrêter la danse parce que t'en avais marre que les gens ils critiquent ce fait-là ?
Alors là, moi non, absolument pas. Au début je l'assumais pas parce que c'est vrai que comme tu apprends, tu te sens pas danseur en fait. T'es pas encore sûr de toi, tu peux pas encore dire je fais du classique. Non en fait j'essaye de faire du classique. Et la première année c'est que ça, tellement que la technique est compliquée. Donc en fait, tant que tu dis pas je fais du classique et que tu l'assumes pas, c'est compliqué d'en parler aux autres. Aujourd'hui, maintenant, je le dis ouvertement. Non, mais moi, je fais de la danse et je fais du moderne, du classique. Et par exemple, c'est un truc que j'ai mis dans mon CV. Parce qu'en plus, ça peut nous apporter au niveau professionnel de dire, bah, putain, vous avez marqué, vous avez fait de la danse. Ou déjà, les gens étiquent parce qu'ils disent, putain, c'est quoi ce truc ? C'est un peu atypique. Et en fait, maintenant, j'en fais une force. C'est-à-dire que, par exemple, si demain, en entretien, on me dit, faites du classique ? Ouais, bah, pourquoi ? Bah, parce qu'en fait, derrière, j'aime la rigueur. J'aime la rigueur, j'aime la précision du geste et j'aime me dire qu'en fait, tant que tu ne refais pas 20 000 fois le même mouvement, tu ne le connaîtras pas. Et je pense que dans la vie de tous les jours, ça peut servir. C'est une démarche très personnelle par rapport à ses choix de vie, par rapport à ce que tu as envie de faire et dans quoi tu t'éclates. Moi aujourd'hui, je m'éclate. Je pense qu'une fois que tu as fait cette démarche personnelle, après tu es en phase avec toi-même. C'est-à-dire que ça te correspond, donc en fait les gens, ils peuvent pas t'attaquer. Une fois que tu es sûr de toi, tu es invincible.
C'est aussi ce que pense mon prof, Fred. Pour lui, assumer son statut de danseur, ça peut vraiment changer beaucoup de choses dans une vie.
C'est réussir à ne plus avoir besoin du regard de l'autre pour exister. C'est de s'assumer pleinement, d'être totalement en accord avec qui on est, avec ce qu'on reflète dans le regard de l'autre, et s'assumer émotionnellement. Je veux dire, je pense que la... Comme je pars du principe où la virilité n'a rien à voir avec l'émotion, on peut justement être totalement libre de ses émotions et se sentir viril à souhait.
Mais qu'est-ce que ça veut dire justement quand un mec vient danser ? Ça veut dire qu'il n'a plus ce problème de rapport à la virilité ?
Je pense que ça veut dire que le cheminement a été fait déjà dans son fort intérieur, qu'il s'est positionné par rapport à ses... copain de classe s'il est plus jeune, soit par rapport à ses collègues s'il est déjà dans le monde du travail, et qu'il s'en fout de le dire ou de ne pas le dire du coup. Voilà, il ne va pas clamer haut et fort, je suis danseur, bonjour, un café. Mais par contre, il va peut-être être capable de ne pas mentir quand on lui demande ce qu'il fait comme sport. Il va dire, je ne fais peut-être pas de sport, mais je fais de la danse. On accepte de se livrer, je dirais. On accepte de se livrer pleinement. On s'assume à la fois physiquement, à la fois intellectuellement et émotionnellement. Et on accepte d'apporter autre chose. Parce que on se rend bien compte que quand les garçons dansent et les filles dansent, c'est différent. C'est pas un mieux que l'autre, c'est juste différent. Et c'est c'est ce culte de la différence qui fait aussi que... qu'on arrive à s'assumer. C'est-à-dire, on se rend compte quand on danse en tant que garçon, que c'est pas pareil que la fille qui est à côté en faisant exactement la même séquence de mouvements. Donc, c'est que je peux ne pas être forcément féminin quand je danse, je suis juste masculin quand je danse.
Pour casser ces barrières qu'on se met tout seul dans le crâne, Fred, c'est le meilleur. Pour un garçon qui veut se mettre à la danse mais qui n'ose pas passer le pas, ça peut être plus simple de commencer la danse avec un prof masculin.
Je pense que ça peut aider de se dire que la personne qui est en face de nous, elle a vécu la même chose. En tant que garçon, forcément, on est passé par les mêmes questionnements, par les mêmes problématiques. Donc, je pense qu'il y a un côté où le prof, il comprend l'élève. Et implicitement, l'élève, il a l'impression d'être compris par son prof. C'est vrai qu'on a du coup à cœur, quand un élève garçon arrive, de réussir à mettre en place tout le contexte et tout l'entourage qui lui permettent vraiment de s'émanciper et de se faire plaisir. Si déjà il a fait le pas de venir, à nous de faire en sorte qu'il se sente bien. C'est pas une croisade, mais c'est juste réussir à lui faire comprendre qu'il s'est pas trompé dans son choix.
Mais ces stéréotypes liés à la danse ne viendraient-ils pas de comment on présente la danse aux enfants ? Fred donne des cours depuis une dizaine d'années dans un lycée à Mulhouse où il raconte son parcours de danseur et il pense vraiment que toute l'éducation artistique est à revoir.
Un artiste, c'est une personne qui est passée au collège, c'est une personne qui est passée au lycée, c'est une personne qui a un parcours, qui a toute un historique de vie, qui a une culture, qui peut du coup parler aussi aux élèves quand on va leur donner cours et leur rappeler qu'on a été à leur place, qu'on a eu un parcours que eux peuvent avoir et de pouvoir démystifier l'artiste en disant c'est une personne lambda comme vous et moi, ben ça leur permet aussi de se projeter, de se dire que l'art c'est pas simplement un passe-temps. Vas-y, pose tes pinceaux là, tu nous fatigues, va faire tes devoirs quoi. Non, il peut y avoir des vocations dans plein d'arts divers et variés, mais c'est pas pour l'instant encore reconnu. L'approche est beaucoup plus naturelle et on fait pas du coup un blocage en disant aux gens venez, vous allez essayer avec nous. Les gens ont un petit peu un recul en disant non, c'est pas pour moi, ou même des filles qui ont pas envie de danser. Mais là, on se retrouve avec quelque chose où on leur donne envie. On essaie de leur faire comprendre ce qui nous a habité, ce qui nous a donné envie de faire cette discipline ou cet art. Et là, du coup, on les amène avec nous, on les transporte. Ils s'identifient pas à nous, ils s'identifient à un parcours. Donc, c'est plutôt essayer de leur dire le parcours, il est possible, et quel que soit l'art que vous faites, le parcours, il est possible. Donc, de démarrer par cet explicatif de parcours, ça leur donne envie de faire quelque chose. Et ils sont beaucoup plus ouverts ensuite quand on va faire une initiation. Ce parcours-là, quand je l'explique aux enfants, je dis que mon parcours, il est pas terminé, quoi. Ils font partie de mon parcours. Et c'est ça qui est intéressant et c'est comme ça que j'essaye de leur faire comprendre. On part pas du point A pour aller au point B, on part du point A et le point B, eh ben, il est quand on s'arrête, quoi.
Alors on ne compte plus les hommes qui ont honte de dire qu'ils font de la danse, mais les femmes aussi sont victimes de stéréotypes genrés dans la société.
De la même manière que les garçons doivent quelque part implicitement réussir à s'assumer et dire j'ai envie de faire de la danse, les filles doivent être capables de dire j'ai pas envie de faire de la danse et d'assumer ce choix. On parle d'enfants qui ont des fois 6 ans, 5 ans, 6 ans, je veux dire, ils vont pas aller assumer quoi que ce soit, on leur demande de faire ça, ils le font. C'est à nous après d'être assez pédagogues avec les parents aussi pour l'expliquer qu'ils ne peuvent pas. Je me rends compte que on a tous envie que ça évolue, on a tous envie que ça ait évolué. Seulement, quand on fait un petit peu un focus sur les mentalités, sur les tabous, on a l'impression qu'il y a exactement les mêmes qu'il y a 50 ans. Des fois moins assumés, des fois plus assumés. C'est pas plus facile, on va dire, de faire de la danse aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Parce que les mêmes stéréotypes subsistent et que le processus d'adaptation et de réussir à assumer son art, il est le même. Presque, je dirais que des fois, il y a un retour en arrière avec un côté machisme assumé avec des nouvelles générations où certaines choses qui ont été des clivages dans les années 50 ont réussi à évoluer dans les années 80, même 70, 80, 90 et qui sont en train de revenir avec une place de la femme, une place de l'homme. Ben, je le vois avec des comportements, même des petites phrases, des phrases type « oui, ben... » Nous, on est les gars, le vendredi soir, on sort avec les pompiers, et les filles, elles sortent avec leurs cours de couture, etc. Enfin, je veux dire, on se retrouve avec des trucs, on est replongé dans les années 50, quoi. Heureusement, pas tout le monde, mais c'est encore présent. Et il faut qu'on se batte pour pas que ça revienne. Je veux dire, on s'est peut-être laissé griser, nous, notre génération, par quelque chose qui devenait pour nous naturel, et en fait qui ne l'est pas, qui est un combat de tous les jours. Et je pense que cette relation à l'égalité, cette relation à la virilité, cette relation à la tolérance, c'est un combat de tous les jours.
Mais donc c'est pas encore gagné, quoi. Niveau tous ces stéréotypes de virilité, on n'y est pas encore, quoi.
Ah non, absolument pas. Absolument pas. Mais ceux qui ont réussi à dépasser ça doivent être les porte-parole pour la suite. Mais on n'est pas encore. On n'y est pas encore.
Merci à Bastien Munch pour ce reportage réalisé par Solène Moulin pour Programme B, qui est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, auquel je vous invite à vous abonner sur l'appli de podcast de votre choix si vous ne voulez manquer aucun de nos épisodes. Si vous voulez nous parler, ça se passe sur Facebook ou sur Twitter. Et à lundi pour un nouvel épisode.
Binge.
Thank you.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.